RFI, il est 8h, rapport au Prince et Washington, 13h en temps universel. Dans la dernière partie de RFI Midi, cap sur les Amériques. Aux États-Unis d'abord, notre envoyé spécial s'est rendu à la frontière avec le Mexique aux côtés d'une patrouille de l'agence aux frontières qui traque les clandestins. Nous serons aussi en ligne avec Godson Pierre de l'agence haïtienne Alter Press. Et puis le Bitcoin au Salvador. C'est fini après avoir fait de la crypto-monnaie une de ses monnaies officielles. Rétro-pédalage. On verra pourquoi avec Stéphane Geneste. Mais tout de suite, le journal avec vous. Karine Delicha, bonjour.
Bonjour Grégoire, bonjour à tous.
Et on commence ce journal par la rencontre historique à Riyad qui s'est terminée il y a moins d'une heure.
Dans un palais de la capitale saoudienne, une rencontre fructueuse. Selon Moscou, autour de la table des délégations américaines et russes emmenées par leur ministre des Affaires étrangères. Un rapprochement spectaculaire et une première depuis l'invasion russe de l'Ukraine en 2022. Le sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine se prépare. Vont-ils négocier seuls la fin de la guerre en Ukraine ? C'est ce que redoutent Kiev et l'Union européenne tenue à l'écart. Pour en parler, on retrouve notre correspondante à Moscou, Anissa El-Jabri. Bonjour Anissa.
Bonjour.
Le Kremlin semble vouloir mettre un deal en avant et aller vite.
Alors, en tout cas, on entend parler d'une rencontre au sommet Trump-Poutine dès la semaine prochaine. C'est ce que l'agence Bloomberg confirmait il y a une heure. Mais la partie russe, à ce stade, affirme que, je cite, c'est peu probable. La partie russe joue la distance. Il est difficile de dire si on peut parler de rapprochement des positions russo-américaines, ainsi déclaré le Sherpa diplomatique du Kremlin. Reste que plus les deux parties se parlent, plus Moscou rappelle au fur et à mesure la totalité de ses exigences réglées. Le conflit en Ukraine, c'est aussi, a dit le Kremlin, je cite, discuter plus largement des questions de sécurité en Europe. C'est une exigence qui date de décembre 2021 dans un document publié par le pouvoir russe juste avant la guerre. Document qui résonnait déjà alors comme un ultimatum. Il figurait d'ailleurs aussi ces autres exigences. Le retrait de l'OTAN de toute l'Europe orientale, ainsi qu'un engagement écrit à ne plus jamais élargir l'alliance vers l'Est. Seul assouplissement sur le papier, toujours selon le Kremlin ce mardi. Vladimir Poutine est prêt à négocier, je cite encore, si nécessaire avec Volodymyr Zelensky. Je vous le disais sur le papier, car le Kremlin continue à contester la légitimité du président ukrainien.
Voilà donc pour la position russe. Anissa El-Jabri en direct de Moscou et Washington salue un premier pas important après les pourparlers avec Moscou. À la hâte, des dirigeants européens se sont réunis hier à Paris pour tenter de présenter une position commune et un front uni sur la question ukrainienne. Pas de communiqué à l'issue de cette réunion, mais ce commentaire du président Macron, il faut parvenir à des garanties crédibles de sécurité pour les Ukrainiens. Volodymyr Zelensky dit partager la position européenne.
Allez vite, c'est le credo de Donald Trump dans tous les domaines.
Sur le dossier ukrainien, on l'a vu, en matière d'immigration aussi. La Maison-Blanche ne cache plus qu'elle veut externaliser la rétention des sans-papiers après le Panama et le Guatemala. Le Costa Rica se met à son tour au service de la nouvelle administration. Les autorités du pays annoncent qu'elles vont prendre en charge 200 migrants arrêtés aux États-Unis. Le premier vol commercial vers San José est attendu dès demain. Vincent Souriau.
Le profil de ces migrants, ils sont originaires d'Inde et d'Asie centrale. 200 personnes dans un premier temps, peut-être beaucoup plus à l'avenir, mais les détails de l'accord signé avec Washington restent confidentiels. On ne sait pas non plus combien de temps leur rétention au Costa Rica va durer. Les autorités costariciennes se contentent d'une phrase : nous allons servir de passerelle pour leur retour dans leur pays d'origine. Les expulsés vont rejoindre un foyer spécialisé dans le sud du pays, processus financé à 100% par le gouvernement américain, sous la supervision de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, l'agence des Nations unies qui sera chargée d'organiser et de contrôler leurs conditions de détention. Cette annonce intervient 15 jours après la visite de Marco Rubio au Costa Rica, le patron de la diplomatie américaine, visite pendant laquelle le président costaricien avait souligné la solidité de l'alliance entre les deux pays et annoncé d'importants accords autour de l'immigration illégale.
Au Proche-Orient, l'armée israélienne devait se retirer du sud Liban aujourd'hui. C'est ce que prévoyait l'accord de cessez-le-feu signé en novembre avec le Hezbollah. Mais Israël a décidé de maintenir ses troupes en 5 postes de contrôle. Selon l'État hébreu, le Hezbollah ne s'est lui-même pas retiré de la zone au profit de l'armée libanaise. Beyrouth demande au Conseil de sécurité de l'ONU d'obliger Israël à quitter son territoire. En France, plus de 4 mois après leur présentation, les budgets pour 2025 sont enfin adoptés au Parlement. Le Sénat a approuvé hier définitivement le projet de budget de la Sécurité sociale.
Et toujours en France, Robert Ménard devra bientôt s'expliquer devant un tribunal correctionnel, Karine.
Le maire d'extrême droite de Béziers avait refusé il y a moins de 2 ans de marier une Française avec un Algérien en situation irrégulière, sous le coup d'une OQTF, une obligation de quitter le territoire. C'est illégal. Aujourd'hui, Robert Ménard a refusé la procédure de plaider coupable proposée par le procureur. L'affaire ira donc jusqu'au procès. En théorie, il risque jusqu'à 5 ans de prison, une amende de 75 000 euros et une peine d'inéligibilité. Les explications de Marie Casadebé.
Robert Ménard avait 2 choix ce mardi, accepter la sanction proposée par le procureur ou la refuser et ouvrir ainsi la voie à un procès. Robert Ménard, qui n'a pas le droit de préciser de quelle peine il s'agissait, a seulement indiqué à la presse l'avoir rejetée. Il avait prévenu qu'il n'accepterait jamais une sanction qui irait au-delà du symbole. Depuis l'été 2023, l'élu a fait de cette affaire un cheval de bataille, d'abord en la médiatisant et ce dès la veille du mariage qu'il s'apprêtait à refuser de célébrer, aussi en appelant jusqu'au ministre de l'intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, pour faire appliquer l'OQTF du fiancé algérien. Il sera d'ailleurs expulsé 2 semaines plus tard. Depuis, le maire a reçu le soutien de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et de Gérald Darmanin, aujourd'hui ministre de la Justice. Tous les deux se disent en faveur d'un changement de loi pour interdire le mariage d'une personne en situation irrégulière. Le Sénat va d'ailleurs examiner ce jeudi une proposition qui va dans ce sens, mais qui risque de se heurter à la Constitution. En France, le mariage n'est pas conditionné au statut administratif des futurs époux.
On va parler à présent, Karine, d'une rencontre très rare au Brésil.
Un contact avec un jeune indigène d'une communauté isolée du nord-ouest du pays, au cœur de l'Amazonie. Souriant, pieds nus, il est reparti après 24 heures. Le récit de Sara Cosolino depuis Rio de Janeiro.
Les vidéos de cette rencontre ont fait le tour du pays. On y voit un jeune indigène pieds nus et vêtu d'un petit pagne tressé qui tente de communiquer. Il porte 2 bûches sous les bras et c'est la raison pour laquelle ses interlocuteurs ont pensé qu'il cherchait à allumer un feu. Les habitants de la communauté qui vit sur les bords de la rivière Purus le filment et lui montrent comment se servir d'un briquet. Il y a quelques échanges de rires, les spécialistes ne sont pas encore parvenus à identifier son ethnie ni sa langue. Le jeune a ensuite été pris en charge par la FUNAI, l'institution de protection des peuples indigènes. Il s'agissait de vérifier qu'il n'avait pas été contaminé avant de retourner dans sa communauté. Car dans cette région, un grand nombre d'activités illégales de pêche et d'exploitation de bois pourrait contaminer les peuples alentours. C'est le jeune indigène qui est à l'origine de cette rencontre, un cas extrêmement rare, car depuis 1987, le Brésil suit une politique de non-contact avec les peuples isolés afin de préserver leur culture et leur mode de vie. Au Brésil, 114 peuples isolés ont été recensés, majoritairement en Amazonie. Sara Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et puis juste un mot de football et Monaco condamné à l'exploit ce soir, battu à domicile mercredi dernier par le Benfica Lisbonne. 1-0, l'équipe monégasque va devoir se surpasser pour renverser les Portugais et obtenir sa qualification pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Voilà Grégoire, c'est la fin de ce journal.
Merci à vous Karine Bellicha.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
C'était un objectif affiché de Donald Trump, expulser jusqu'à 15 millions de sans-papiers et sceller la frontière avec le Mexique. C'est sur ce programme radicalement anti-immigration que le républicain a été élu. Depuis son investiture, le 20 janvier, les effectifs de police ont été considérablement renforcés le long de la frontière avec le Mexique. Ils ont même reçu l'appui de l'armée. Résultat, en 3 semaines, les franchissements illégaux ont chuté de 90% sur cette frontière mexicaine. C'est en tout cas les chiffres avancés par la police des frontières. RFI vous propose un reportage exceptionnel de notre envoyé spécial David Thompson à El Paso, au Texas. Il a pu accompagner l'une des unités d'élite de cette police aux frontières qui est chargée de traquer les clandestins.
Un groupe de migrants vient de traverser la frontière mexicaine en courant à toutes jambes. Les quatre clandestins sont immédiatement pris en chasse par les agents du Borstar, une unité d'élite de la police anti-immigration américaine. Une course-poursuite s'engage dans la montagne escarpée d'El Paso, ville frontalière avec le Mexique. Rapidement, l'un des migrants est rattrapé, plaqué au sol sans ménagement, menotté par trois agents pendant qu'un quatrième exulte au loin en criant « C'est comme ça qu'on reprend le contrôle de notre pays ».
J'en poursuivais trois autres, j'en ai attrapé un. Les deux autres ont réussi à s'enfuir. On les attrapera la prochaine fois. On va continuer à les poursuivre. On va continuer à reprendre le contrôle de notre pays. Ça fait quatre ans maintenant qu'on patrouille dans ces montagnes. C'était absolument hors de contrôle. Maintenant l'hémorragie s'est un peu arrêtée, mais pas totalement comme vous pouvez le voir.
Que Dieu bénisse le président Trump, ajoute ce policier d'élite dans un chuchotement à peine voilé. En théorie, sa fonction lui interdit toute prise de position politique. Le migrant menotté est quant à lui placé à l'arrière du SUV noir banalisé du Borstar. Il faut partir vite car de l'autre côté de cette route de terre qui sépare les deux pays, les passeurs des cartels sont là. À quelques mètres à peine, ils jettent des pierres, profèrent des insultes. Preuve que la frontière États-Unis-Mexique est encore loin d'être sous contrôle, malgré le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. David Thompson, El Paso, RFI.
Et dans votre revue de presse, Anne Verdaguer, bonjour Anne.
Bonjour.
On revient sur ces arrestations de migrants à la frontière mexicaine. Le Washington Post a fait le décompte depuis l'arrivée de Donald Trump. Il y a un militaire en poste pour chaque migrant qui tente de traverser.
Oui, et le journal se pose la question aujourd'hui. Quelle est la mission de ces soldats déployés par le président américain? Ils sont 3600 à venir prêter main forte à la police des frontières, mais c'est une période très calme. Moins de 50 arrestations par jour entre le secteur texan de Del Rio et la ville voisine d'Eagle Pass, alors qu'en 2023, on en comptait 5000 par jour. Le maire de Del Rio dit n'avoir aucune information précise sur l'objet de leur présence. Dans le comté voisin de Kinney, le shérif dit qu'il n'a jamais eu une période aussi calme. Il n'y a pas eu une seule arrestation en 40 jours. Et ces hommes ont repris leur train-train, aller chercher les chats dans les arbres ou aider les vieilles dames à traverser. C'est le calme avant la tempête, dit-il. Le Washington Post estime qu'il y a actuellement 300 000 personnes qui attendent au Mexique de voir comment la politique anti-migratoire de Donald Trump va évoluer et le calme actuel ne pourrait bien être que temporaire.
Dans la presse américaine également, Anne, les témoignages de ces employés de l'administration licenciés manu militari.
USA Today a repris les lettres de licenciement de 10 salariés de l'administration fédérale sur les milliers de personnes licenciées juste avant le week-end. Des lettres envoyées le plus souvent par mail. Elles mentionnent presque toutes des problèmes liés à la performance de ces derniers, ce qui ajoute l'insulte au préjudice, dit le journal. Certains ont peur de ne pouvoir obtenir le chômage, voire même de pouvoir retrouver du travail. USA Today, qui publie les photos de rassemblements à travers tout le pays contre ces coupes budgétaires initiées par la commission de l'efficacité gouvernementale dirigée par Elon Musk. Le milliardaire est vu comme le bras armé de Donald Trump. Même le chef de la diplomatie, Marc Rubio, n'est plus qu'un pantin dans les mains du président, estime le journal Politico. Et le guide de survie du secrétaire d'État est en panne devant un Elon Musk dont l'influence grandit jusque dans les sphères de la diplomatie américaine.
Et les appels à la démission contre le maire de New York font aussi la une de la presse américaine.
Le New York Times, dans son éditorial, revient sur l'incroyable arrangement entre Donald Trump et les avocats d'Eric Adams pour empêcher le maire de New York de tomber. Celui-ci est empêtré dans une affaire de corruption. Le journal publie la photo d'un Donald Trump inquiétant sur fond noir avec une main qui exhibe un gant en cuir comme un parrain de la pègre. Trump défie la justice, estime le journal, mais il a devant lui des hommes et des femmes courageux et de vrais patriotes. Après la procureure par intérim de Manhattan, quatre des influents adjoints au maire menacent de partir et Eric Adams est dans une situation intenable selon le New York Times.
La revue de presse américaine d'Anne Verdaguer.
RFI Midi, Cap Haïtien, 100.5 FM.
Comme chaque mardi, on retrouve Godson Pierre, directeur de l'agence haïtienne Alter Press. Il est en ligne avec nous de Port-au-Prince. Bonjour Godson.
Bonjour Grégoire.
Alors, retour d'abord sur un nouveau carnage. Au moins une dizaine de personnes assassinées le week-end dernier près de l'académie de police sur la commune de Pétionville dans la périphérie de Port-au-Prince.
Oui, triste dimanche dans ce quartier appelé Château Blond. La plupart des victimes ont été sommairement tuées dans la rue pour se venger du lynchage du père d'un membres du gang. Les bandits armés déclarent avoir assassiné ces gens sous prétexte qu'ils seraient des mouchards de la police. Une mère a perdu 4 enfants. Plusieurs familles ont fui Châteaublanc. La tension demeure palpable dans ce quartier, jouxtant l'académie de police.
Et l'académie de police, c'est l'établissement policier le plus important d'Haïti. Qu'est-ce qu'elle représente, cette académie, et est-ce qu'elle peut encore fonctionner dans ces conditions ?
L'Académie de police a formé et forme encore des dizaines de promotions de policiers. C'est l'unique centre de formation de policiers de divers grades, avec des aires d'entraînement, champs de tir et un dispositif de protection. L'Académie est depuis quelques mois une base opérationnelle avancée de la mission multinationale d'appui à la police. Mais la police ne parvient pas à éradiquer les activités criminelles aux portes même de l'établissement. Il y a 3 ans, son directeur, l'inspecteur Harrington Rigaud, a été assassiné juste en quittant le centre de formation.
Et vous publiez aussi une tribune signée de l'Association des professeurs de l'Université d'État d'Haïti qui s'indigne du meurtre d'un étudiant en pleine salle de classe. C'était la semaine dernière.
Il s'agit du jeune Masséna Lebelt, tué d'une balle perdue. Les professeurs dénoncent fermement la terreur imposée par les groupes criminels. Les autorités étatiques ne peuvent se contenter de dénoncer et d'annoncer. Le pays attend des mesures concrètes, écrivent-ils.
Et puis cet avertissement sur votre site de l'analyste politique Michel Legros, attention au choix des mots, ne pas confondre banditisme et terrorisme.
Le terme terroriste porte une connotation politique forte, soutient l'analyste. Appeler les bandits terroristes revient à leur offrir une certaine légitimité. C'est changer leur nature aux yeux du monde et leur offrir une perspective de victoire. Cela pourrait justifier des négociations avec eux et ils pourraient finir par prendre le pouvoir, prévient Michel Legros.
Merci Godson Pierre, exactement, directeur de l'agence de Alter Press, en direct de Port-au-Prince. Toute l'actu d'Haïti sur votre site alterpress.org. On reste dans la région, en République dominicaine. Le président veut encore allonger le mur anti-migrants avec son voisin d'Haïti. Saint-Domingue avait déjà fait construire un tronçon de 34 km pour, je cite, se protéger de l'immigration illégale, des violences et de la contrebande haïtienne. Ainsi, le président Luis Abinader a annoncé un appel d'offres pour une extension de 10 à 12 km. À terme, le mur devrait s'étendre sur une distance de 176 km.
RFI Midi.
Grégoire Morelli.
Focus cet après-midi sur le Salvador. Ce pays d'Amérique centrale avait été le premier à reconnaître le Bitcoin comme l'une de ses monnaies officielles. Mais revers de la médaille, le Salvador est aussi le premier pays à mettre fin à la reconnaissance de cette même crypto-monnaie. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Grégoire.
Pari raté donc pour le président du Salvador, Stéphane.
Oui, en septembre 2021, Nayib Bukele en était fier. Son pays était le premier au monde à adopter officiellement le Bitcoin comme monnaie légale, donc avec un cours légal. Concrètement, cette loi obligeait toutes les entreprises et les institutions du Salvador d'accepter tout paiement en Bitcoin. Nayib Bukele, qui estimait que cette mesure allait stimuler l'économie du pays en attirant des investissements et en accélérant les paiements. Sauf que voilà, 3 ans et demi plus tard, force est de constater que ce qu'il considérait comme une opération de modernisation du Salvador n'a pas vraiment marché comme il l'avait envisagé.
Mais alors Stéphane, qu'est-ce qui n'a pas marché ?
Eh bien, la mayonnaise n'a pas pris, c'est aussi simple que ça. Déjà, pour payer en Bitcoin, il faut en détenir, ce qui n'est pas franchement donné à tout le monde. Pourtant, le gouvernement a beaucoup investi pour que ça fonctionne. D'après le quotidien hispanique El País, entre 200 et 400 millions de dollars ont été mis sur la table, notamment en créant une mesure incitative pour passer au Bitcoin. Il suffisait en fait de télécharger une application spécifique pour faire cette conversion. En contrepartie, vous receviez 30$. Sauf que beaucoup de Salvadoriens ont fait la manipulation, mais ils en sont restés là pour simplement gagner ces 30$. D'après le Bureau National de Recherche Économique, un organisme privé américain, pratiquement la moitié des téléchargements ont eu lieu au lancement de l'application. La Banque Centrale Salvadorienne estime, elle, à moins de 2% l'envoi de fonds via ces cryptos entre janvier et novembre 2023.
Donc si on comprend bien, Stéphane, ce grand projet du président Bukele n'a pas porté ses fruits et c'est pour ça que le pays a fait marche arrière sur le sujet.
Oui, en partie, mais il y a une autre raison à cela. Les autorités ont finalement cédé aux demandes du Fonds monétaire international parce qu'il faut savoir que le Salvador fait face à une dette publique de 31 milliards de dollars. Elle est conséquente puisqu'elle représente à peu près 85% de son PIB. Pour obtenir des liquidités, seul le FMI acceptait de prêter, mais à une condition, mettre fin à la reconnaissance du Bitcoin comme monnaie officielle. L'institution ayant toujours vu d'un mauvais œil cette décision, le Salvador a donc cédé aux pressions du FMI qui devrait lui octroyer donc un prêt d'1,4 milliard de dollars.
Et alors désormais, qu'est-ce que va faire le Salvador de tous ces Bitcoins en stock ?
C'est vrai que le pays détient encore de cette crypto-monnaie dans ses réserves nationales, même si le gouvernement est plutôt discret sur le montant. D'après le Bureau national du Bitcoin, le Salvador possède 6050 bitcoins d'une valeur d'environ 600 millions de dollars. Pour le moment, le pouvoir ne va pas y toucher, mais Nayib Bukele mise sur son homologue américain. Donald Trump ne s'en cache pas. C'est un fervent défenseur des crypto-monnaies. Le président salvadorien estime donc qu'avec le nouveau locataire de la Maison-Blanche, il y aura, je cite, une appréciation exponentielle du Bitcoin. Reste maintenant à savoir, Grégoire, si l'on est convaincu ou s'il veut tout simplement se rassurer.
Dans le reste de l'actualité, l'ENL a déclaré une grève armée à partir de ce mardi dans le département de Choco, au nord-ouest du pays, la Colombie, obligeant la population à se confiner selon les autorités locales qui ont exhorté le gouvernement à agir. Explication avec le coordinateur de la Fondation Paix et Réconciliation, Francisco Daza, c'est au micro de Carlos Pizarro.
Por un lado, pues se mantiene pues la voluntad de...
D'un côté, il y a une délégation du gouvernement Petro qui souhaite réengager le processus de négociation avec l'ELN gelé depuis plus d'un an. De l'autre, et à la lumière des actions armées que la guérilla de l'ELN a menées ces derniers mois, une partie du gouvernement cherche à renforcer les opérations militaires. D'ailleurs, dans la région de Catatumbo, l'armée est incitée à attaquer directement l'ELN. On est donc dans cet entre-deux, entre guerre et paix, qui remet en question l'objectif de paix totale du gouvernement pour 2025.
Le coordinateur de la Fondation Paix et Réconciliation, Francisco Daza, au micro de Carlos Pizarro, de la rédaction en espagnol de RFI.
RFI Midi.
Le décès à 95 ans de la romancière et dramaturge canadienne Antonine Manet, qui était une grande voix de l'Acadie et la première non-européenne à recevoir le prix Goncourt. RFI l'avait reçue en 2021, peu après qu'elle ait été promue commandeur de la Légion d'honneur. Elle réagissait au micro de Marie Normand.
Je reçois le plus grand hommage que la France peut offrir. Et je suis d'autant plus contente ou heureuse de cette promotion que je suis acadienne. Et non pas seulement canadienne. Garder la langue française dans un milieu qui parlait anglais, il fallait continuellement combattre pour garder notre langue française. Donc le jour où l'Acadie a compris que si on ne se défendait pas, on disparaissait, que pour sortir de son isolement, sa fragilité, eh bien il fallait, pour garder la langue, garder l'histoire, garder le souvenir, qu'on le pratique, qu'on l'assume.
Et Anne Verdaguer, la presse canadienne, rend un hommage vibrant à cette grande dame qui a popularisé à l'extérieur du Canada l'histoire et la culture des Acadiens.
Oui, les réactions à la mort d'Antonine Maillet sont à la mesure de la perte que représente celle de cette immense autrice, témoigne Le Devoir. Et on se souviendra longtemps des monologues songés de son personnage le plus connu, la Sagouine, avec son bel accent acadien, a écrit le Premier ministre du Québec. Elle a fait résonner l'Acadie et la francophonie canadienne aux quatre coins de la planète, et estime le chef intérimaire du Parti libéral du Québec. La presse parle d'une conteuse extraordinaire qui n'a jamais perdu la flamme de l'écriture. Son éditeur se souvient de la dernière phrase qu'il a lue d'elle. La vie est juste en face. Et quand il lui demande ce qu'elle veut dire, elle répond « Ma vraie vie commence tout juste ».
Et la revue de presse d'Anne Verdaguer. C'est l'heure de retrouver nos confrères d'Outre-mer. La première, le bureau du comité de pilotage scientifique national Chlordécone entame ce mardi une visite de travail en Martinique, Benoît Ferrand.
Oui, bonjour. Les membres de la structure auront aujourd'hui un emploi du temps bien rempli, dont voici le détail avec notre confrère de la première Martinique, Claude Gracien.
Le comité de pilotage scientifique national Chlordécone a été mise en place par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre de la stratégie chlordécone. Il s'occupe de la diffusion des avancées scientifiques et de l'orientation des recherches. Dans cette optique, c'est une journée chargée qui attend les membres de la délégation. Leur périple va débuter au Robert un peu avant 9h à l'Ifremer, où il devrait être, entre autres, question de la pollution de certaines zones à la chlordécone, un fait dont se plaignent les pêcheurs, même si des dispositifs d'indemnisation ont été mis en place ces dernières années. Cap ensuite sur le pôle agro-ressources et de recherche de Martinique, le PARM, c'est au Lamantin. Et puis l'après-midi, ce sont les chercheurs du campus qui vont recevoir la délégation, ceux du laboratoire des matériaux et molécules en milieu agressif. Il s'agit pour les membres du CPSN de mieux comprendre l'impact de la pollution par la chlordécone sur l'environnement, l'alimentation et la santé, et pour identifier aussi des solutions qui viseraient à limiter les expositions humaines et environnementales.
Direction la Guadeloupe avec un tout autre sujet, la fin de l'utilisation du charbon par la centrale électrique couplée à l'usine sucrière de Gardel. Comme dans tous les pays ou les départements où on fait de la canne à sucre, eh bien, quand il y a de la canne, on brûle le résidu pour faire de l'électricité. Et quand il n'y a plus de canne, on brûle autre chose. Et en Guadeloupe, c'était donc du charbon. Eh bien, c'est fini. Peggy Robert.
La centrale thermique du Moule, exploitée par Albioma, la CTM, est la dernière en Outre-mer à utiliser du charbon. Ce charbon sera remplacé dans quelques mois dans toutes les unités de la centrale par une combinaison de biomasse locale, bagasse, bois forestier, bois d'élagage, et de granulés de bois certifiés en provenance de l'usine d'Albioma située au Canada. La tranche 3 de la CTM fonctionne déjà exclusivement à la biomasse depuis novembre 2020. Plus de charbon en Guadeloupe à compter de juillet 2025, cela représente 200 000 tonnes de CO2 évitées chaque année, selon Albioma. Les émissions directes de gaz à effet de serre vont diminuer de 87% par rapport au fonctionnement actuel de la centrale. Et autre conséquence, la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique guadeloupéen devrait faire un bond. Il devrait passer de 35 à 45%.
Bon après-midi, Grégoire. À demain.
Merci, bon après-midi à vous aussi, Benoît Ferrand. Je vous propose de retourner en Acadie avec le Canadien Daniel Lanois, le chanteur canadien. Et cette chanson, Jolie Louise, c'est un morceau de 1989. Daniel Lanois, c'est un artiste qui a travaillé avec les plus grands. Et on écoute donc Jolie Louise.
Ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault-Leroux. I come from east of Gatineau. My name is Jean-Guy, ma jolie. J'ai une maison à La Fontaine, where we can live if you marry me. Une belle maison à La Fontaine, where we will live, you and me. Oh, ma jolie Louise, tous les matins au soleil, I will work till work is done. Tous les matins au soleil, I did work till work is done. And one day, the foreman said, Jean-Guy, we must let you go. Et puis mon nom est pas bon at the mill anymore. Oh, Louise, I'm losing my head, I'm losing my head. My kids are small, 4 and 3. Et la bouteille, she's mon ami. I drink the rum till I can't see. It hides the shame Louise does not see. The carousel turns in my head, and I can't hide. Oh, no, 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 no. The rage turned in my head, and Louise, I struck her down, down on the ground. I'm losing my mind, I'm losing my mind. En septembre 63, kids are gone, and so is Louise. On patio, did it go, near la ville de Toronto. Now my tears, they roll down. Tous les jours,
promises that we made. Oh, oh Louise, ma jolie Louise, ma jolie Louise.
RFI Midi. C'est terminé à la réalisation aujourd'hui. Yann Elie Gouin, la rédaction en chef Emmanuel Klotz. Merci à eux. Bonne suite des programmes.
Demain sur RFI.
8 milliards de voisins, Emmanuel Bastide.
Notre émission est enregistrée à Marrakech à l'occasion de la conférence mondiale sur la sécurité routière. Comment sortir de la fatalité des accidents de la route en Afrique ? Quelle prévention ? Comment faire appliquer la réglementation sur un continent où la route empruntée à pied, à moto, en voiture, en bus, constitue la première cause de décès des 5-29 ans ?
8 milliards de voisins, du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.